Gloire à Dieu. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous un des textes qui me parle le plus en ce qui me concerne depuis très longtemps. Alors vous avez peut-être trouvé que c'est un texte étrange, et il l'est en effet dans l'Écriture. Il se trouve dans le deuxième livre des Rois. Et si j'avais à mettre un titre, d'ailleurs j'ai mis un titre à ma prédication pour m'en rappeler, et tu pourras le mettre même sur l'enregistrement, c'est « Élisée ». Où la foi du disciple éprouvée. Élisée, où la foi du disciple éprouvée. Il se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante et je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » J'arrêterai ma lecture ici. Suspense, que va-t-il se passer? Est-ce qu'Élisée va voir Élie enlevé? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mais j'arrêterai ma lecture, ça vous encouragera à lire la suite. C'est comme ça qu'ils font dans les séries américaines, vous savez. Et ils font ça même dans les séries françaises. Sur le dernier épisode, il se passe un truc et ça reste en suspens et vous devez attendre 6 mois pour connaître la suite. Vous pouvez connaître la suite dès la fin de ce culte. Pas maintenant, écoutez-moi un peu. Mais après, vous pouvez lire la suite. C'est un de mes textes, je dirais presque préférés, et qui me parle encore aujourd'hui de manière très très forte. Parce que c'est un texte étrange et j'aime les textes étranges où le sens doit être recherché par le lecteur. Quand on lit ce texte-là, on se dit « Quelle attitude étrange !» Quel comportement particulier de la part d'Élie qui a eu à cœur, à un moment donné, dirigé par le Seigneur, dans le chapitre 19 et au verset 19, d'appeler Élisée à le suivre. Il y a un grand vide. On ne sait pas ce qui se passe ensuite entre les deux hommes, le maître et le disciple. entre l'appel et ce moment-là, on ne sait pas trop. Il y a un grand vide, un silence. Moi, j'ai bien une idée de ce qui se passe, peut-être que vous aussi. Mais après, c'est l'enlèvement d'Élie et puis ce comportement étrange d'Élie vis-à-vis d'Élisée. Élie qui propose à Élisée de rester à chaque étape de cette marche. « Reste là, je vais plus loin. » « Non, non, je te suis. » « Reste là, je vais plus loin. » « Non, non, je te suis. » « Reste là, je vais plus loin. » Il n'y a aucune raison évoquée par Élie pour expliquer pourquoi il demande à son disciple de rester là. Il n'y a pas non plus de raison évoquée dans le texte pour dire pourquoi Dieu l'envoie à tel ou à tel ou à tel endroit. Tout ce qui nous est nécessaire pour comprendre le texte est dans le texte. Il ne s'agit pas de l'interpréter. On sait simplement qu'à un moment donné, le maître dit à son disciple, reste là, que le disciple dit, et que c'est là que se trouve la clé de lecture. Il y a les fils des prophètes qui interpellent Élisée au sujet du départ d'Élie prochain. Tout le monde a l'air d'être au courant. C'est étrange, n'est-ce pas ? Et puis vous avez Élisée qui dit « Chut, je le sais, taisez-vous. » Comme s'il devait y avoir quelque chose qui se passe dans ce temps d'échanges et d'étapes successives. L'engagement d'Élisée vis-à-vis d'Élie qui se renouvelle à chaque étape. Est-ce que vous avez lu ce texte auparavant ? Je pense, oui. Ça ne vous a pas intrigué ? C'est étrange comme comportement. Il n'y a rien de clair dans ce texte-là. C'est un texte singulier, puisqu'on a un voyage, on pourrait presque dire un road movie, vous savez. Ces films qui sont faits avec quelqu'un qui est sur la route ou un groupe de personnes. Et puis, il y a des rencontres. Et puis, on suit ça un petit peu de manière étrange de l'extérieur et on voit des choses se mettre en place. C'est un road movie qu'il y a là entre Élie et Élisée. On ne sait pas ce qui se fait, on ne sait pas où ils vont et pourquoi ils y vont, mais on les voit avancer. Le sens ne se trouve pas dans ce qui est vécu à chaque étape, mais dans le fait de passer par cette étape pour aller à la suivante. C'est ça qui est important. C'est un texte qui parle d'accompagnement, de séparation et de recommencement. Et ce texte nous envoie aussi, je ne sais pas si vous le... Moi, il y a deux textes qui sont parallèles et complémentaires. Et normalement, si vous lisez ce texte-là, vous devez automatiquement penser à un autre texte de l'Ancien Testament qui propose la même démarche, avec peut-être un petit peu plus de sens dans les étapes, mais où effectivement le personnage va devoir aller en une, deux, trois étapes. Et qui plus est, sur les trois étapes que ce personnage de l'Ancien Testament devra effectuer, il y en a deux qui sont celles d'Élisée. Ça vous dit quelque chose ? C'est un texte que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est très parlant sur l'itinéraire du disciple. Allez, je vous laisse deux secondes. Un personnage de l'Ancien Testament auquel il est proposé de faire aussi ces étapes-là, notamment par Gilgal et par Bethel. Ah, il y a un blanc. Eh bien, moi, je pense que ces deux textes-là sont complémentaires et qu'ils ne peuvent pas pratiquement se lire l'un sans l'autre ou sans s'éclairer l'un l'autre, puisqu'on est véritablement dans la démarche de deux disciples qui doivent, pour leur service et leur engagement avec Dieu, vis-à-vis de Dieu, ils sont appelés par Dieu à aller par ces trois villes particulières. Alors, cette autre personne, c'est tout simplement Saül. Saül, quand il rencontre le prophète Samuel, il part, entre guillemets, sur un malentendu. Il part, soi-disant, pour aller chercher et récupérer les ânesses et les animaux, les bêtes, qui se sont égarées du troupeau de son père. Et puis, avec son serviteur, ils partent à l'aventure pour retrouver leurs bêtes. Et puis, cette quête d'animaux va se transformer par la rencontre avec le prophète Samuel qui va reconnaître et installer par l'onction le roi Saül dans un appel royal. Et avant de s'en séparer, il dira à Saül, « Écoute, tu vas me quitter là maintenant, tu vas retourner chez ton père, mais tu t'arrêteras dans telle ville et telle ville. » Et il lui propose trois étapes. Et dans ces trois étapes, il y a les étapes notamment de Gilgal et de Bethel. Et il va se passer quelque chose à chaque étape. C'est la seule différence. Mais on se retrouve aussi sur un itinéraire de l'appel de Saül, où il part de Bethel pour aller à Gibea Elohim, puis arriver à Gilgal. Et là, le parcours de Saül s'arrête à Gilgal. Celui d'Élisée commence à Gilgal. Et je pense qu'il y a un sens aussi. Je crois que ces deux textes sont complémentaires. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est parce que Saül s'est arrêté à Gilgal, alors que le prophète Samuel lui a dit « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » C'est-à-dire que son itinéraire, Saül l'a véritablement achevé à Gilgal. Il n'a pas entendu Dieu qui lui disait « Une fois que tu seras arrivé là, continue ta route. Fais ce que tu as à faire. » Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ce matin, le Seigneur nous a dit, ne croyez pas que vous êtes petit et insignifiant. Mon esprit vous accompagne. Votre Père veille. Vous êtes porteur de ma volonté. Si vous avez des questions, parlez avec moi, parlez avec vos frères et sœurs, parlez aussi avec votre pasteur ou avec les ministères qui vous entourent. Vous êtes porteur de volonté. Ce que vous avez à faire, faites-le. Vous avez entendu, et j'ai entendu ce matin, la même parole adressée à Saül par Samuel qui dit, maintenant, c'est dans le premier livre des rois, maintenant, ce que tu as à faire, fais-le. C'est dans 1 Samuel 17, pardon. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu auras à faire, car Dieu est avec toi. Vous avez entendu la même chose. Moi, j'aime bien quand Dieu est cohérent. Il l'est toujours. Mais quand dans un culte, vous avez une parole prophétique qui reprend l'introduction d'une prédication, vous dites, bon, il n'y a pas de hasard. Donc, ce qui a été dit à Saül, vous l'avez entendu aussi. Dans ce récit de l'appel d'Élisée, j'ai envie de dire que l'appel d'Élisée, c'est un bel exemple du chrétien qui est serviteur de Christ. Là où est son maître, là il sera. C'est ce qu'on lit aussi dans l'évangile de Jean. Chapitre 12, verset 26, à Bethel, à Jéricho, les fils des prophètes lui disent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête ? Il répond, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Sa connaissance ne peut pas lui être communiquée par les fils des prophètes, car il est prophète lui-même. Il a été installé, il est rentré dans cet appel, mais ce qu'il distingue avant tout, c'est qu'il a tout quitté pour suivre son maître, son seul objet, la seule source de bénédiction pour son âme. Est-ce que c'est aussi notre appel à nous ? Est-ce que notre attachement à Jésus-Christ est semblable à l'attachement d'Élisée auprès d'Élie ? Je le sais. Je le sais. Et je reste avec lui. Sans Élie, Élisée n'est rien. Il ne veut rien être. Élie est celui sur lequel son affection se concentre, son attention se concentre, son désir d'être à côté se concentre. Je trouve cela admirable et je me dis, mais est-ce que mon attachement pour Christ est de la même nature ? Est-ce que je suis à ce point, à ses côtés, pour dire « je ne te lâcherai pas ». Ça me fait penser à un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection dans l'Ancien Testament, c'est Ruth, vis-à-vis de Noémie. Ruth, elle est admirable dans sa foi pour une raison toute simple, à mon sens. C'est qu'elle est moabite, elle est ennemie d'Israël par son peuple, tout l'oppose au Dieu d'Israël. Son mari est mort, le beau-père est mort, ils vivent dans la pauvreté, même si la tradition juive fait d'elle une princesse moabite. Rien n'est dit dans le texte. Mais elle a tout perdu. Et pourtant, au milieu de tout ce qui est perdu humainement, elle discerne les promesses de Dieu vis-à-vis d'Israël. C'est admirable, cela. Il y a tellement de Juifs, dont sa propre famille, qui n'étaient plus attachés aux promesses de Dieu. Elle, malgré toutes les pertes, la foi est née dans son cœur. Alors elle dit à sa belle-mère qui lui dit « Reste là, c'est plus facile, ne va pas avec moi. Là où tu iras, j'irai. » Elle a le même discours qu'Élisée vis-à-vis d'Élie. « Je ne t'abandonnerai pas. » Comme Dieu serait heureux d'entendre tous ses enfants proclamer à Christ « Je ne t'abandonnerai pas. » Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas. Si le ciel est gris, si le terrain est dur, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, suivre le chemin de Dieu en suivant celui de Christ, comme Élisée l'a fait ? Alors Élie partit de Gilgal avec Élisée. L'appel d'Élisée se fait de manière parlante. Hein, dans le, je disais le premier livre des Rois, quand il a vu Élie est passé à côté de chez Élisée, fils de Shaphat, dans 1 Roi 19, il dit qu'Élisée labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, une Ferrari pour retourner son champ. Ah ouais, non, quand même. C'était pas le petit paysan du coin avec un bœuf péniblement en train... Non, 12 paires de bœufs en train de... J'ai du mal à imaginer. Je me dis, mais pourquoi on met 12 paires de... Ben, en tout cas, il avait les moyens. Hein. C'était pas... Il labourait pas son champ avec une deux chevaux. C'était une Ferrari. 12 paires de bœufs. Et puis, Élisée s'approche. Il jette sur lui son manteau. Avez-vous noté que, quelque part, Élisée a eu deux fois le manteau d'Élie, hein ? Il jeta sur lui son manteau. Il n'est pas dit qu'il le récupérera. Donc il y a au moins un manteau, il est reparti avec. Hein. Et puis Élisée, quittant ses bœufs, courut après. Il dit, laisse-moi embrasser mon père, ma mère, et je te suivrai. Et il lui dit, va et reviens, car je pense à ce que je t'ai fait. Je pense qu'il y a là une véritable rencontre pour Élie, pour Élisée, de celui qui est porteur de la parole de Dieu. Et après s'être éloigné, il revient prendre une paire de bœufs. Donc papa a dû être content. D'une Ferrari, il est descendu à une Mercedes, mais il a pris deux paires de bœufs et il les a offerts en sacrifice avec l'âge des bœufs et il a partagé cette viande avec le peuple et ensuite il s'est levé et il a été au service. Il est dit d'Élisée qu'il était celui qui lui lavait les mains. C'est tout ce qu'on sait pendant cette période où il a suivi Élie, celui qui lavait les mains d'Élie. Il était à son service et on ne sait rien de ce qui s'est passé jusqu'au moment de la séparation. Il était là et il servait Élie. Ah, ça c'est un modèle. Une fois, il y a un jeune homme qui est arrivé à Lorient, il y a une quinzaine d'années à peu près. Il est venu une fois à la réunion de prière, et puis la deuxième réunion de prière, il m'a dit, écoute Jean-Marc, je viens de la région parisienne, je vais m'installer ici, je sens que vraiment le Seigneur m'a appelé à ça. Est-ce que tu serais d'accord ? Il m'avait demandé un entretien avant la deuxième réunion de prière. Il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour me reconnaître comme apôtre ? J'attendais pas à ce qu'il me lave les mains, mais je m'attendais à ce qu'il soit peut-être dans une attitude. Non, il voulait être reconnu comme apôtre, donc il avait un parcours un petit peu chaotique. Et j'ai dit, non, je suis désolé. Vouloir être reconnu comme apôtre, ça demande du temps, ça demande un regard de l'Église, un regard des autorités. Mais voilà. Donc il est parti. Puisque je n'ai jamais revu. Élisée, lui, il a été à côté d'Élie. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il est resté simplement à côté, il l'a servi. Comme, à un moment donné, lorsque nous rentrons dans ce service avec Christ, hein, parce que c'est bien ça le rapport, c'est Élisée, Christ, moi. Est-ce que je suis prêt aussi à avoir un temps où je sers Christ en vis-à-vis, cœur à cœur, parole contre parole, pouvoir être là, profiter de sa présence, rien d'autre, pour apprendre, grandir, me développer, jusqu'au moment où, me laissant seul, je continue ma route avec une double portion de son esprit. Est-ce que je suis prêt à vivre cela ? Il y a tellement peu, aujourd'hui, de discours sur la consécration. Le prix de la consécration. Ah, on ne peut pas tous aller dans un collège biblique pendant 2-3 ans. on l'accorde. Mais est-ce que nous n'avons pas, au pied de Christ, à prendre le temps de se laisser enseigner ? Que sa parole nous construise. Il nous a appelés, certes, comme Élisée a été appelé. Il aurait pu se dire, oula, vous avez vu les copains ? C'est Élie, il m'a choisi, moi, vous avez vu ? Pas vous, moi. Ah, je suis bien, hein ? Je vais mettre une cravate maintenant, parce que je suis quand même le bras droit d'Élie, hein ? Non, non. Il a lavé les mains et il s'est mis à côté pour être enseigné. Et Élie partit de Gilgal avec Élisée. Gilgal, vous savez, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est là où s'est arrêtée la marche de Saül. C'est très intéressant que Saül se soit arrêté à Gilgal et qu'il ne soit pas allé au-delà, malgré tout ce qu'il avait à faire. Gilgal, c'est l'endroit à côté de Jéricho où les Juifs, les Israélites, ont traversé le Jourdain et sont entrés dans la terre promise. C'est l'endroit où Josué, vous lisez ça dans Josué 4, verset 19, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont mis le pied dans la terre promise, à cet endroit-là, Josué a dressé 12 pierres en souvenir du fait qu'ils étaient rentrés. Ils avaient quand même passé, Josué en savait quelque chose, ça faisait 40 ans qu'ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte, mais ça faisait aussi 40 ans qu'ils tournaient en rond dans le désert. Alors je peux vous dire, pour Josué et Caleb, qui étaient les deux seuls hommes à rentrer dans la terre promise, ça y est, on y est, génial, on est dans la terre promise. Alors ils ont dit, on va mettre 12 pierres, 12 pierres qui seront des pierres qui marqueront le souvenir de notre passage. Et c'est à cet endroit-là, à Gilgal, souvenir un petit peu moins rigolo, peut-être un petit peu plus douloureux, que tout le peuple a été circoncis à l'entrée de la terre promise à Gilgal. Acte de consécration, souvenir de la délivrance et consécration. On lit ça dans Josué 5 et c'est là que Gilgal est devenu. Alors Gilgal, ça veut dire, il y a un sens sur rouler l'opprobre qui a été roulé, c'est-à-dire nos fautes qui ont été roulées. Nos fautes ont été roulées, enlevées, un peu comme une certaine pierre au matin de Pâques a été roulée. Et les chrétiens ont proclamé cette pierre roulée. C'est le signe de notre délivrance. J'aime bien les parallèles. Gilgal, une pierre qui a été roulée. L'endroit du souvenir. Et quand Josué, est-il écrit, dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants et vous leur direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. L'itinéraire d'Élisée commence à Gilgal. Souviens-toi que tu es sauvé par la grâce. Que la suite de ta marche, quelle qu'elle soit, de ton appel et de ton service, quel qu'il soit, repose sur le souvenir permanent en toi que c'est Dieu qui t'a sauvé, qui t'a fait rentrer dans cette vie nouvelle. Tu ne le dois pas à tes efforts, ni à tes qualités, ni à ta cravate. Aussi belle soit-elle. Je vois que j'ai un frère qui avait une cravate dimanche, qui n'en a plus aujourd'hui. Je dis, bon, j'espère que dimanche, il en aura une. Ça fait partie du costume. Je plaisante. Nous ne devons rien à nous-mêmes pour être passés de l'autre côté et être entrés dans la terre promise. Gilgal, c'est le lieu qui, à l'intérieur de nous, dit « Souviens-toi !» Et afin que ceux qui nous regardent discernent aussi ces pierres-là en disant « Mais quand il me parle de son Dieu, quand elle me parle et témoigne de son Dieu, ces pierres dressées en elle ou en lui sont des pierres de témoignage d'une réalité vécue. Il s'est passé quelque chose. Vous savez, en Bretagne, on sait ce que c'est que de regarder des pierres et de se dire, là, il y a eu un peuple qui a vécu quelque chose. Et il n'y a pas que Carnac, dans chaque bois, dans chaque terrain. J'avais un ami qui me parlait de cela récemment. Il me dit, j'ai un médecin du côté de Saint-Moyen, il me dit, ben moi, dans mon terrain, j'ai un tumulus. On a découvert ça et là, il s'est passé quelque chose, il a été vécu. Est-ce que ce monde peut regarder l'Église en disant, là, quand je regarde les pierres du témoignage et du souvenir qui est dans leur vie, je peux dire, il s'est passé quelque chose. Est-ce que ton fils, ta fille, tes parents, tes amis, tes collègues de travail voient ces pierres dressées? Gilgal, c'est le lieu de l'appartenance, de la circoncision, du souvenir. Dans Romains, au chapitre 2, verset 28, Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Est-ce que nous sommes circoncis de cœur? Est-ce que notre Gilgal est aussi en nous? Gilgal, Golgotha, deux lieux où le sang a coulé, deux espaces qui sont des lieux de souvenir. Notre Gilgal, nous, c'est Golgotha, à mon sens. C'est là où la relation avec Dieu change. C'est là où Dieu nous rappelle sa fidélité, son amour. La foi d'Élisée est éprouvée tout au long de ce texte-là. Reste ici, je te prie, dit le prophète. Reste à Gilgal. Et pourquoi pas, finalement ? Saül, c'est ce qu'il a fait. Il dit, finalement, la fin du parcours, c'est là, Gilgal, il y a les pierres du souvenir. Oh, comme ça, je me rappellerai tout le temps ce qui s'est passé. Saül restait à Gilgal, il n'est pas allé plus loin. C'est certainement ce qu'il l'a perdu. Or, Élisée dit, non, je ne resterai pas ici. Il ne s'agit pas d'être prisonnier du passé et de ne pas vouloir aller plus loin que le passé, les expériences que nous avons vécues avec Dieu, il s'agit de s'appuyer dessus pour continuer sa route. Et là, Élisée dit non. Je veux suivre ton chemin. Je veux aller plus loin. L'Éternel est vivant, je m'attacherai à toi. Est-ce que nous voulons, nous aussi, ne pas être prisonniers de notre Gilgal, de l'endroit où nous sommes rentrés dans la terre promise, en disant « je m'arrête là ». Il y a tellement de chrétiens qui sont arrêtés là, vous savez, qui se disent « maintenant je suis sauvé, j'ai mes pierres dressées, je me souviens et je vais les regarder tous les jours. Tous les jours je regarderai la croix, qu'est-ce que c'est bien, je suis sauvé, j'ai plus de péché, le Seigneur, Dieu me voit, je reste là. » Ouais, reste là, c'est une proposition, tu es sauvé. Mais comme le disait Élisabeth au moment de la Sainte Cène, passer d'un Christ sauveur à un Christ Seigneur, c'est s'appuyer sur cette réalité. Je suis rentré dans la vie promise, dans la terre promise, et je vais plus loin. Nous avons passé le Jourdain, et nous allons plus loin. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. À Bethel, ça vous dit quelque chose, Bethel ? Bethel, c'est l'endroit, ça veut dire maison de Dieu, en hébreu. Et c'est l'endroit où Jacob eut un songe. Il nous est dit dans la Genèse, « Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient sur cette échelle. » Bethel, c'est là où Dieu se révèle. À Bethel, le lieu des promesses est assuré au Père. Et Élie dit à Élisée, reste là. C'est la maison de Dieu. Dieu est un Dieu de révélation. Tu es passé par Gilgal, tu as conscience d'être entré dans la terre promise, et là, tu es à Bethel. Les fils des prophètes disent, tu sais que ton maître va être enlevé, tu vas être tout seul. Je le sais, taisez-vous. Mais j'ai un autre ressort qui me fait bouger, agir, c'est que je vais aller avec lui jusqu'au bout. Et même s'il est enlevé, je continuerai ma route, mais là où je dois continuer ma route, seul, jusqu'à son retour. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, dit, est-il dit à Jacob. Hein ? J'ai utilisé comme carte de vœux cette année la peinture d'une artiste de la région qui avait représenté la nuit et le jour. C'est une très très belle peinture que j'avais déjà vue en exposition. Et entre les deux, il y avait la lune dans la nuit, le soleil de l'autre côté. C'était voilà. Et puis entre les deux, il y avait une échelle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça peut être qu'une représentation de l'échelle de Jacob. Alors j'ai pu contacter l'artiste et puis je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment touché par ça. Et puis je lui ai expliqué, mon interprétation me dit, ah mais j'avais jamais pensé à ça. Mais pour moi, c'était une évidence. Alors j'ai utilisé ça comme carte de vœux, comme un message pour passer d'une année à l'autre, pour passer de la nuit au jour, pour passer de la mort à la vie. C'est ce qu'a vu Jacob. Reste ici, Dieu m'envoie jusqu'à Bethel, le lieu de la révélation et des promesses, celle des pères, celle des fils. On peut rester aussi dans la maison de Dieu, vous savez. On est tellement bien entre nous. Puis tous les dimanches, on aura une parole prophétique. Puis tous les dimanches, il y aura une parole de prédication. Puis tous les dimanches, on pourra louer le Seigneur. On peut rester dans la maison du Seigneur. C'est tellement bien entre nous, entre gens bien. Dehors, c'est le péché. Ben oui. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais le but, ce n'est pas rester entre nous, ce n'est pas de rester à Bethel, c'est de sortir et d'aller plus loin parce que nous sommes, qu'est-ce qu'il est dit ? Nous sommes porteurs de sa volonté. Dieu nous dit que nous sommes porteurs de sa volonté. Entre nous ? Ou en dehors de la maison. Il est bon de se retrouver, c'est une grâce. Mais encore faut-il aussi sortir parce que nous sommes porteurs. Et Élisée a été porteur de la parole de Dieu. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Ah bon ? Il insiste, cet Élie. Pourquoi à chaque fois veut-il empêcher son disciple ? Parce que quelque part, il invite son disciple à prendre position par la foi. Tu peux rester là. Qu'est-ce que tu vas faire ? La balance décisionnelle. Ouah, c'est bien ici à Bethel. Les gens sont gentils. Et puis on est bien accueillis. Et puis on prend du pain, la coupe ensemble. Ah non, il y en a bien certains qui sont un petit peu limites. Hein, mais bon, c'est comme dans les familles. Hein. Mais globalement, on est quand même plus protégé dans la maison du Seigneur. Reste ici. Tu as ta décision à prendre pour être aussi un disciple qui va au-delà, qui profite de Bethel, mais qui va au-delà. Et pas n'importe où au-delà. Le peuple sorti du Jourdain, chapitre 4 de Josué, le dixième jour du premier mois, il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Je trouve que... Il était courageux, Josué, on ne peut pas lui enlever ça. Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'Éternel des armées et des armées de l'Éternel. J'arrive maintenant !» Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Est-ce que tu as un message pour moi ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Au chapitre 6, verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas. » Vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Reste ici, je dois aller à Jéricho. Écoute, Seigneur, ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je vais rester à Bethel, c'est plutôt tranquille, c'est une position assez paisible. Puis toi, va à Jéricho, parce que Jéricho, quand même, les portes sont cadenassées, c'est bien fermé, etc. Donc, ce n'est pas une ville qui nous inspire. Hein. C'est un peu l'image de Jonas auquel il est dit « Va à Ninive ». Oh, à Ninive ? Oh non, certainement pas. Il y a quand même d'autres endroits de villégiature un peu plus confortables pour un chrétien. Seigneur, souvent on me dit « Et si le Seigneur t'annonçait que tu devais aller à Paris pour assurer une charge pastorale, je dirais, dans un premier temps, j'aurais la réaction de Jonas. Seigneur, tu sais, la Bretagne, c'est quand même bien. Hein. Métro, boulot, dodo, c'est pas trop mon truc. La preuve, on accueille les Parisiens maintenant. Hein. Ouais. Reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho, dans une contrée où il y a du combat, c'est difficile. Et en même temps, quand il dit « L'Éternel m'envoie au Jourdain », je ne sais pas si vous avez remarqué la différence dans le texte, mais Élie ne demande pas à Élisée de rester là. Il dit « L'Éternel m'envoie au Jourdain ». Et pourquoi n'y a-t-il pas cette remarque « Reste ici » Tout simplement parce que dans ce message qui concerne une vie de disciple, le combat et le service. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Elisabeth là-dessus. Le service est obligatoire. Eh ouais, ça fait partie du pack. Être dans une perspective où le service fait partie du salut. Nous sommes appelés à servir. Allez, là je vais à Jéricho. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il est dit dans le texte, ils s'en allèrent tous deux, et plus loin il dit, eux deux se tinrent auprès du Jourdain, ils passèrent eux deux à sec, Élie n'y passe pas pour lui seul, mais pour y faire passer Élisée avec lui. Il fait passer Élisée avec lui. Et là, à partir de ce moment-là, c'est eux deux, c'est-à-dire que Élie et Élisée. Et vous savez quoi ? C'est un parallèle qui, moi, me fait dire ce que nous avons entendu encore ce matin dans le message. Je suis avec vous et mon esprit vous accompagne. C'est-à-dire que même si on passe de l'autre côté, qu'on rentre à la terre promise et qu'on se voit Jéricho à l'horizon, et nous en avons des Jéricho dans nos vies, des combats, des choses que nous savons qui seront difficiles pour nous. Mais il est dit dans ce texte, Élie, eux deux y allèrent, passèrent le Jourdain, et eux deux se dirigèrent vers Jéricho. Ça veut dire que quelque part, Dieu nous dit, si tu es disciple et si tu fais ce choix de passer par toutes ces étapes-là, même les lieux de combat, je serai véritablement à côté de toi. Élie est resté à côté d'Élisée et l'a fait passer. L'Esprit de Christ repose sur nous, véritablement. L'Esprit de Christ qui nous dit que nous sommes avec lui et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Nous avons celui qui par son Esprit nous accorde la victoire. Quels sont nos Jéricho ? Devant quelle ville apparemment indestructible sommes-nous dans nos vies personnelles ? Est-ce que nous croyons que nous pouvons aller de l'avant ? Et comme Élisée, nous attendre à ce que l'Esprit de Christ soit sur nous. Ah, quand ils ont passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que je ferai pour toi. Ça ne vous rappelle pas un texte des Philippiens, ça ? Demandez ce que vous voudrez, hein, ce que vous désirez. Soyez prêts à demander. Qu'est-ce que tu veux, Élisée ? Lui dit, je trouve que dans le texte, c'est un peu osé. Il dit, oh moi ! Peu de choses, une double portion de ton esprit. Ah ouais, quand même. Et puis nous, en tant que chrétiens, l'Écriture nous dit, demandez à Dieu qui vous donnera. Et on est là, on dit, t'aurais pas 2 euros, Seigneur ? 1,50 ? Nous sommes tellement timorés face à ce que Dieu veut nous donner que nous demandons peu. Aussi recevons-nous peu. Aussi recevons-nous peu. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as demandé une chose difficile. Élie, il dit, voilà, c'est pas une petite chose que tu demandes. Mais si tu me vois, quand je serai enlevé d'auprès de toi, il en sera ainsi pour toi. Si tu me vois. Et moi, j'ose dire et affirmer que par l'Esprit Saint, nous voyons celui qui a été enlevé d'au milieu de nous. Nous voyons le Christ ressuscité. Nous voyons par l'Esprit le Christ qui a été élevé, qui est glorifié. Comme Élie a vu son maître enlevé d'à côté de lui. Ne le voyons-nous pas ? N'avons-nous pas auprès du Père celui qui est assis sur le trône et qui dit « ce qui est à moi est à vous ». Est-ce que nous pouvons, à ce titre, avoir la même attitude qu'Élie et dire « Seigneur, alors donne-moi une double onction de ton esprit ». Et à côté de cela, Élie lui dit quand même « Écoute, il y a un message que je trouve très intéressant, je terminerai par cela. Lui dit, mais si tu me vois, et vous savez quoi ? Quand il a dit cela, il a demandé à Élisée d'être dans une attitude de vigilance. Si tu me vois. Alors vous savez quoi ? Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand il a dit ça à Élisée, Élisée ne faisait plus un pas à droite ou un pas à gauche, ne préparait pas la soupe du soir sans regarder où était Élie en se disant « Donc, je le regarde tout le temps. » Vous croyez pas ? Des fois que... Ça serait absurde quand même que je baisse pour mettre mes lacets et je me retourne, il n'est plus là. Donc, il lui a dit « Si tu me vois !» J'imagine que ce message de vigilance a été adressé à Élisée et a généré chez lui une vigilance de tous les instants. Oh ! Là, ils allaient marchant et parlant, au verset 11. Ah, ils discutaient de plein de sujets, on ne sait pas de quoi, on a très peu d'informations sur ce qui se passe. Mais je suppose que tout en discutant, l'œil d'Élisée ne perdait pas la personne d'Élie. Ah ! Si tu me vois, ça se passera vite. Il y a une formule qu'on retrouve dans les évangiles. En un clin d'œil. Oh, en un clin d'œil. Il a été enlevé. En un clin d'œil, il reviendra. Sommes-nous vigilants à son retour ? Avons-nous cette même attention ? J'en suis pas si certain. Est-ce que nous scrutons le ciel en se disant, bon, je fais la soupe, je lasse mes lacets, mais je suis vigilant à son retour. Et lorsque le char et les chevaux de feu emmènent Élie, il le voit, son maître, dans ce cortège angélique, et il voit aussi cette nuée, la gloire de Dieu. Il voit son maître enlevé, comme nous le voyons nous aussi. C'est cela l'objet de notre joie et l'objet de notre vigilance sur son retour. Et il reçoit un deuxième manteau. Ah, il est habillé pour l'hiver. Un deuxième manteau. Mais avec ce manteau, il part pour servir. Et on verra à partir de ce moment-là. On ne sait rien d'Élisée en termes de service avant, mais à partir de ce moment-là, il servira le peuple d'Israël. Il servira son Dieu. Il sera porteur de sa volonté. C'est vraiment un texte qui, moi, me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le lis et le relis en pensant à toutes ces étapes qui ont lieu, comme avec les étapes du roi Saül, en me disant « Seigneur, fais de moi un Élisée, ne fais pas de moi un Saül. Seigneur, fais que je ne devienne pas, moi, par mes choix, un Saül qui s'arrête à Gilgal, mais que je sois un Élisée qui avance et qui sert avec une double onction de ton esprit. » Amen. Merci Seigneur pour la lumière que nous donne ton esprit pour éclairer ta parole, pour ce que nous y trouvons, pour là aussi prendre des décisions. Merci pour cette parole de ce matin qui était tellement en accord avec aussi ce que tu m'as donné pour apporter ta parole. Seigneur, donne-nous, donne-moi d'être aussi cet Élisée qui marche à tes côtés, qui a conscience que tu as été enlevé, mais dont la vigilance est toujours présente dans le service, avec ton esprit sur moi, pour attendre ton retour. Seigneur, c'est là l'appel que tu adresses à chacun de ceux que tu sauves, que tu fais rentrer dans la vie nouvelle. C'est là l'appel que tu fais retentir dans chacune de nos vies. Fais que ton Église réponde. Fais que ton Église animée de ton esprit soit une Église en service, en action, et qui attend ton retour. Amen.